Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
J'ai toujours ce truc de vouloir gagner de l'argent, tu vois. Et encore une fois, ça vient de ce truc de quartier où il faut que je gagne de l'oseille. On s'en bat pas les couilles, il faut gagner de l'argent. Moi, je veux gagner de l'argent. Je m'en cache pas. En tant qu'auteur, je veux gagner de l'argent. Je suis pas, par exemple, les gens qui me parlent des prix, qui me disent « Oh, les prix, on s'en fout. » Moi, les prix, je m'en fous pas. Je veux gagner de l'argent. Je veux être sur les prix littéraires. Je veux gagner de l'argent.
Adrien Bels s'est fait connaître à la parution de « 5 dans tes yeux », un roman autobiographique, très marseillais, paru chez l'Iconoclaste, qui a un joli succès. Il m'a dit « Je veux parler du rapport à l'argent en tant qu'écrivain, j'ai plein de trucs à dire et c'est un milieu où on n'en parle jamais. » Et on s'est retrouvé à faire non pas un mais deux épisodes. Fils de bourgeois déclassé, il se définit lui-même comme un transfuge de classe à l'envers. Quand on naît dans une famille de riches, mais qu'on grandit dans un milieu pauvre. Qu'est-ce qui reste ? Voici le premier épisode avec Adrien, qui explore le rapport à la thune d'un des rares écrivains français qui vient de la street. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Adrien Bels. Adrien, tu es écrivain. 5 dans tes yeux, c'est, je crois, assez autobiographique. Alors Adrien, t'es né à Marseille, c'est ça ?
Ouais.
Et t'es né au Panier, un quartier de Marseille.
Ma mère est du sud-ouest, d'une famille aristocratique désargentée. Et mon père, lui, il est pied noir, grande famille de colons, vraiment en Algérie depuis quasiment le début. Et en fait, mon père est reparti vivre en Algérie pour enseigner à la fac d'Alger jusque dans les années 80. Voilà, il a rencontré ma mère. Donc, ils sont partis vivre à Alger pendant un moment. Et puis après, ils ont acheté à Marseille au Panier.
Le Panier, aujourd'hui, c'est une sorte de petit Montmartre marseillais. C'est très touristique.
Ouais.
C'est assez cher. À l'époque dont on parle, à l'époque de tes parents, à l'époque où tu grandis là-bas, c'est pas du tout le même Panier.
Ah ouais. La gentrification, c'est aussi simple que ça. C'est le prix du mètre carré, quoi. Et mon père, il a acheté ses appartements à coût de 3000 euros, l'appartement, à l'époque. Dans les années 70.
3000 euros l'appartement ?
3000 euros l'appartement. Et il était prof de droit, prof d'histoire du droit romain. C'est pour ça que je m'appelle Adrien avec un H, d'ailleurs.
Donc, ce n'est pas quelqu'un qui avait la culture de l'investissement, qui était dans le business ?
Non,
ou...
non, pas du tout. Je pense que déjà, au Panier, dans les années 70, il fallait y aller. Bah, c'était... Nous, on habitait à côté de l'îlot Labadie. L'îlot Labadie, c'était un îlot... tenu par un mec qui s'appelait Papa Sanchez. Papa Sanchez, c'était un marchand de sommeil et il ne louait qu'à des Comoriens. Et donc, à l'époque, dans les années 90, le Panier, c'était... nous, dans cette partie-là, c'était quasiment un bidonville. C'était vraiment un quartier ultra, ultra populaire où les gens, enfin, à raison, avaient peur d'aller, hein, même la nuit surtout. Enfin, c'était dangereux. Tu pouvais te faire arracher ton sac ou te faire agresser. C'était pas non plus... Tu n'allais pas te faire tuer, tu vois. Toxico à fond, donc toute cette génération de toxico qui est morte, hein, soit d'overdose, soit de la maladie. C'était un quartier aussi assez mythique, tu vois. C'était le quartier aussi de la Funky Family. Quand Akhenaton fait comme un aimant, il le situe au Panier. On ne sait pas trop s'il est du Panier ou pas, mais il joue avec ça. Le Panier, c'était ça. C'était le quartier où tout le monde venait. Donc les mecs de Belzins, les mecs de Noailles. Parce que c'est un quartier aussi qui est en hauteur, qui est difficile d'accès. Donc, c'est un quartier où on peut faire facilement des conneries aussi. Parce que les flics, ils ont du mal à t'attraper.
C'est piéton,
il faut y monter. Les voitures de la BAC ont du mal à y rentrer.
Money. Et alors, ton père achète des apparts à une époque où le panier, c'est un coupe-gorge, en gros. Il les achète à 3000 balles l'appart, tu me dis ?
C'est ça.
Moi, le moindre studio aujourd'hui vaut 200 000 euros. Hein.
C'est ça. Donc maintenant, c'est 6 000 le mètre carré.
Est-ce que vous parliez d'argent ?
Non. Non, j'ai... L'argent... Non, c'est pas un truc dont on parlait en famille, tu vois. On sait des choses, mais on n'en parle pas. On sait que, par exemple, ma mère, qui, elle, vient du sud-ouest, elle a grandi dans un château. Et on sait que quand elle était petite, parce qu'on a des vidéos d'époque, tu vois, pourtant, elle a plus de 70 ans, on a des vidéos d'époque, donc t'imagines, des vidéos quand elle avait 8 ans, donc qui étaient tournées, par exemple, en Espagne. Donc mes grands-parents avaient une grande maison à Biarritz, en plein cœur de Biarritz. Ils avaient des maisons aux Baléares. Et en fait, mon grand-père, le père de ma mère, a plus ou moins tout perdu.
Comment il a tout perdu ?
Et voilà, c'est là que ça devient un peu nébuleux. C'est là qu'on ne sait pas trop. On ne sait pas trop aussi la manière dont il est mort. Donc on sait qu'il est mort dans un accident de voiture, mais on ne sait pas trop s'il est mort d'une cause accidentelle ou si c'était un accident de voiture qui était volontaire pour pouvoir toucher une prime. Donc ça, ce sont des choses qui sont restées. Ma grand-mère, en fait, j'ai grandi avec elle. Elle appartenait donc à une grande famille du sud-ouest et ma grand-mère, elle ne chauffait pas l'hiver. Elle avait quasiment plus d'argent. Ils ont tout perdu en quasiment une génération. Mais ça fait partie aussi de cette génération qui n'était pas habituée à gérer l'argent. Ils avaient énormément de terrains. Mon oncle a d'abord essayé de gérer les terrains de manière agricole. Et après, je pense qu'il y a eu des mauvais investissements qui ont été faits. Il a monté une conserverie artisanale. Mais
il venait d'où l'argent ?
Eh ben, c'est l'argent de la noblesse. Ma mère était noble. Ma mère s'appelle De Roquette Buisson, tu vois. Donc, ma mère est noble, mais finalement, quasiment plus rien de cet argent-là.
Noble désargenté, en quelque sorte.
Non, complètement. Noble désargenté.
Et elle croise ton père, pied noir.
C'est ça. Et il tombe amoureux. Et elle le suit. Et elle fait deux autres enfants, moi et mon frère.
Et vous grandissez donc au panier. Et t'arrives dans un quartier où personne n'a de fric, en fait.
Tout le monde est prolo. Et même au-delà de prolo, c'est clando. Tous mes potes, quasiment tous les potes de 5 dans tes yeux, sont des gens qui sont sans papier. Le personnage de Hichem est sans papier. Le personnage de Nordine est sans papier. Le personnage de Ange est un ami, fils de mafieux, corse. Dont le père est mort prématurément d'un cancer et qui vient de Toulon vivre avec sa mère. Mais ce mec n'a plus rien alors que son père avait 3 ou 4 bars à Toulon. Et donc du coup, voilà, c'est une espèce de mélange comme ça. À Marseille, je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment ce... Elle existe, la lutte des classes, mais elle n'est pas explicitée de cette manière-là à Marseille. En tout cas, au panier, c'était pas dit de cette manière-là, tu vois. Après, j'avais toujours conscience que j'allais passer des vacances ailleurs, que je pouvais partir en Angleterre si je le voulais, en Allemagne. On vit dans une famille qui est tenue par ma mère, au niveau, en tout cas, finance. Par exemple, moi, ma mère... On va se fringuer chez Emmaüs. Je récupère les chaussures de mon frère. On vit pas dans l'opulence, tu vois. Quand je vais à l'école, même si je vis qu'avec des prolos, je suis le moins bien fringué de l'école. Et la console de jeu, je l'ai jamais eue. J'ai pas les marques, j'ai pas les Lacoste, les trucs, parce que mes parents veulent pas m'acheter ça.
Parce que c'est des intellos.
Parce qu'ils se disent que j'en ai pas besoin, à juste titre, tu vois, est-ce que j'en avais besoin ?
Tu l'as ressenti, ce manque ?
Ouais, complètement. Je l'ai ressenti. Et c'est, j'allais chercher l'argent là où je pouvais pas le trouver, tu vois.
Quelle est la première fois où t'as touché un billet que t'as gagné ?
Ah, le vol de mes parents. C'est-à-dire que la première fois que je gagne de l'argent, c'est en allant voler mes parents.
Dans le porte-monnaie ?
Dans le porte-monnaie, et puis après les cartes bleues. Tu vois, ma première expérience de vol, toute première, ma mère m'avait inscrit au catéchisme. Et donc, j'allais au catéchisme en bas. Et donc, je volais à mes parents dans le portefeuille au tout début. Et mon grand truc, c'était d'acheter des bonbons pour tout le monde. Tu vois, à la sortie du catéchisme.
T'as quel âge ?
J'ai 8 ans. Et là, en fait, je me fais balancer par un pote de catéchisme qui, plus tard, est devenu gendarme à la brigade financière. Tu vois ? Ça s'invente pas. Donc, la première fois que je gagne de l'argent, c'est en volant de l'argent à mes parents. Donc après, je continue à voler à mes parents parce que mes besoins sont de plus en plus importants. Un survêt Lacoste, ça coûte cher, hein, tu vois.
Ah là, t'as 14 ans, t'as 12 ans, t'as 14 ans, t'as quel âge ?
Je continue, puis je me fais attraper. Je me fais attraper, on m'envoie mon frère, mon grand frère dessus qui me tarte, qui me met des grosses tartes dans la gueule.
Vous avez combien de différences avec ton
on
grand
frère ? On a 4 ans.
Et lui, il faisait pas ça ?
Non. Mon frère, il a un autre parcours. Mon frère, il a bien sûr grandi au panier, mais je pense qu'il a pris tout dans la gueule. Il est pas bon à l'école, il a des problèmes à l'école, et on l'envoie dans une école privée. Et donc, du coup, il grandit avec un autre microcosme, qui est pas celui du panier. Et donc, lui, il est rocker, tu vois, il est rocker, il écoute U2 et Sex Pistols. Il joue de la guitare, il se fait agresser par les mecs du panier. Donc, il a tous ces trucs-là, mais en même temps, il est clair avec la thune, tu vois. Il est beaucoup plus clair que moi, il est moins vicieux, tu vois. Moi, je grandis au panier avec des mecs du panier. Et tout de suite, je me fonds dans le moule du panier. Je gagne de l'argent aussi de manière illicite, mais c'est des tout petits trucs, tu vois. En fait, c'est des trucs qui sont plus de l'ordre de l'adrénaline que gagner de l'argent. J'ai dealé un peu, mais de manière vraiment nulle, quoi. Tu vois, aller vendre des pochons, trucs, mais finalement, j'ai pas cette culture-là, tu vois. J'ai pas ce truc de l'entrepreneur, tu vois. Je gagne pas facilement de la thune. Donc, on fait des arrachés de sacs, mais une arrachée de sacs, par exemple, qu'est-ce que tu vas gagner ? Alors, en fait, les arrachés, c'est un truc d'adrénaline. Les arrachés et les cambriolages, c'est vraiment de l'adrénaline. Mais finalement, qu'est-ce que tu vas trouver dans un sac ? Alors après, j'ai traîné avec des gens plus bourgeois de Marseille. Et souvent, les conneries, c'était de casser les vitres de voiture. Quand tu vas à Vauban, par exemple, il y a beaucoup de vitres de voiture qui sont cassées. Le petit bourgeois, il casse pour l'adrénaline, sans vraiment avoir un objectif précis de thune, tu vois. Alors que mes potes, ils avaient des objectifs très ciblés, tu vois. C'était vraiment pour gagner de l'argent. Après, je dis pas, hein, j'ai quand même fait des conneries, tu vois. Quand j'étais jeune, j'étais assez beau physiquement, c'est vrai. Par exemple, j'ai le souvenir d'un mec qui était un peu limite, un peu pédophile, tu vois, un Anglais, qu'on avait traîné jusqu'au Square Protis pour le dépouiller, tu vois. Donc, des fois, je servais un peu d'appât. Ensuite, il y a eu la période des cartes bleues. En fait, il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent avec ça. En fait, c'était l'époque où on regardait les numéros de cartes bleues. Il y avait moins de caméras autour des distributeurs. Et après, on dépouillait les comptes, tu vois.
Mais donc, vous regardez le numéro de carte bleue, vous chouriez la carte bleue du mec.
Voilà, exactement.
Ou de la meuf. Voilà. Et après, vous pouviez tirer.
Voilà. Est-ce qu'il se faisait beaucoup en couple ? C'était assez beau, tu vois, il y a un côté un peu Bonnie and Clyde. Je ne l'ai pas fait, mais j'étais approché par une meuf pour faire ça, pour partir à Cannes, tu vois, pour faire ce genre de truc. Genre, comme j'avais une tête d'agneau, quelque part, j'inspirais confiance. Donc, c'était peut-être plus facile pour moi de voler. J'allais voler dans les magasins, les chaussures. En fait, il y a une espèce d'inconscience dans le vol, c'est-à-dire que ça rejoint la kleptomanie, tu vois. Plus tu voles, plus tu as envie de voler. À la fin, tu as envie presque de rentrer dans une galerie marchande et de repartir avec un écran plat, tu vois. Plus c'est gros, plus ça fonctionne. Donc, pas mal de choses comme ça, mais qui rapportent rien, en fait. Le butin, ce que je dis, c'est que mes potes, ils y prêtaient beaucoup plus d'attention que moi. D'ailleurs, je pense que dans certains trucs, Il y a des potes qui ont caché des choses. Le panier, c'était un haut lieu du cambriolage. C'était notoriété publique que les gens, ils arrivaient au panier très rapidement, bim, cambriolage. Mais dans un cambriolage, quand tu rentres dans une maison, tu en ressors, mais tu sais pas ce que le mec a dans les poches. Tu sais pas ce que le mec a pris. Tu sais ce que toi, tu as pris, mais le partage du butin, tu sais pas qu'est-ce qui se passe vraiment.
Et donc, tu pouvais te faire carotte sur le butin?
Je pouvais faire carotte sur le butin. Parce
tu peux
que
avoir
peut-être
un côté naïf sur, ouais, mais, sur la thune elle-même.
En fait, naïf, je sais pas, mais en tout cas, ça rejoint ce que tu dis. C'est peut-être que j'avais pas les mêmes besoins que mes potes. J'avais peut-être moins besoin de thune qu'eux, au final, d'une manière inconsciente.
Dans ton livre, on a l'impression que c'est comme si tu avais toujours eu conscience, quelque part, que t'étais différent parce que peut-être t'étais plus bourgeois. L'argent, à la fin, c'était un problème pour eux. Et c'est comme si t'avais l'idée que c'était pas un problème pour toi.
Non, l'argent, c'était pas un problème pour moi. Tout à l'heure, tu disais, est-ce qu'on parlait d'argent? Je connaissais, par exemple, le salaire de mes parents, assez tôt. Je demandais à mes parents combien ils gagnaient. Et c'était des chiffres qui me paraissaient énormes. Tu vois, un prof de fac, moi j'ai le souvenir, c'était 25 000 francs ou 30 000 francs. Mon père était agrégé de droit, tu vois. Donc un prof de droit, ça gagne de l'argent, tu vois. Ma mère, elle gagnait beaucoup moins parce qu'elle travaillait dans l'associatif et tout. Mais voilà, on avait... Après, dans l'adolescence, l'adolescence, c'est pas un truc forcément dont tu parles, tu vois. Tu vis les choses, mais l'argent, tu n'en parles pas vraiment. En fait, j'étais un galérien comme eux. On mangeait, on allait, on sortait, on allait chercher des sandwichs en bas à la rue de la République et on partageait le sandwich. Mais quand on allait en boîte de nuit avec les potes, moi, c'était à fond les boîtes afro et c'était l'enfer pour que tout le monde puisse mettre 10 euros pour avoir une bouteille de whisky. Mais moi, je ne mettais pas plus que les autres parce que je n'avais pas plus que les autres. Et même après, quand j'ai eu mon bac miraculeusement, parce que j'ai été viré de tous les lycées de Marseille, j'ai eu le bac en candidat libre, après le bac, j'ai eu une fille à 18 ans. Donc, tu vois, une fille dans des conditions compliquées pour moi. Ma première copine a accouché alors que je ne savais pas qu'elle avait un enfant, tu vois. Donc, j'ai eu un enfant à 18 ans, genre 2 mois avant le bac. J'ai eu ma première fille et là, j'ai le bac. Je fais des études foireuses de communication, pub, parce que je voulais être le nouveau bec BD, tu vois. Mais en fait, je fais un BTS et je crois que je vais devenir bec BD. Mais rapidement, ma mère, elle me dit, ben maintenant, il faut que tu bosses, tu vois. Nous, on va pas t'aider. Donc, je travaille. Mais je travaille, je fais tout, tu vois. Je vais à l'usine. Donc, je fais 2 ans ou 3 ans d'usine. Donc, je travaille à l'usine. J'ai fait Pernod Ricard, Provence Chips, Haribo. Je fais de l'usine.
Ton frère, il a fait de l'usine aussi?
Non. Mon frère, lui, pas terrible à l'école. Il part même en pension. Il n'arrive pas à avoir le bac. Et lui, il s'oriente vraiment vers un métier manuel. Donc, lui, il devient charpentier. Et tout de suite, il construit sa vie. Pareil, un enfant très tôt, une femme très tôt. Et il construit sa vie presque une vie d'ouvrier, tu vois.
En fait, il y a un sacré déclassement là qui s'opère dans la famille.
Ouais, déclassement, transfuge de classe à l'envers, complet. C'est ça qui s'est passé dans ma famille. En tout cas, chez moi et mon frère. C'est-à-dire, on a un père qui est agrégé de droit, histoire du droit romain. Et nous, on ne fait pas d'études. Moi, je travaille à l'usine. Mon frère, il devient charpentier. Je suis parti, en fait, quand j'ai ma fille, je pars vivre à Montpellier. Je fais une école qui est genre une espèce de boîte à BTS, tu vois, payée par mes parents. Je fais 2 ans à Montpellier. Là-bas, je galère. Mais j'ai un appartement payé par mes parents, rue de l'université. Je suis pas mal, tu vois. Mais je suis en mode crédit revolving, à la BNP, parce que j'ai des besoins, tu vois. J'ai des besoins pour faire la fête. Je découvre la fête À Montpellier, je découvre la bringue. Les boîtes de nuit, la bringue. Et donc, j'ai des besoins.
Et l'usine, alors ?
L'usine, c'est juste après, quand je rentre de Montpellier. Je rate mon BTS parce que je ne suis pas bon, tu vois. Et il faut le faire. Et j'ai tellement peu conscience des choses que je me dis, ouais, comme je te disais tout à l'heure, je vais être le nouveau bec BD, tu vois. D'ailleurs, je réussis à faire un stage à Publicis à Paris, au drugstore, parce que mon oncle est un photographe parisien connu, et il arrive à me faire mon stage à Publicis. Et moi, j'arrive là-bas, tête rasée, j'ai encore tous les stigmates du mec de quartier, tu vois. Et j'arrive là-bas et je me rends compte qu'à Paris, ben, ça ne va pas se passer comme ça, tu vois. Je ne serai pas le bec BD, je ne serai pas un concepteur rédacteur de folie. Je suis juste en stage chez Garnier L'Oréal et en fait, je me rends compte assez vite que non, je ne serai pas ça, tu vois. Et puis, je rentre à Marseille, j'ai raté mon BTS. Finalement, j'arrive à l'avoir en candidat libre, mais presque, il me le donne. Et là, il faut que je bosse. Donc, c'est là que je fais de l'usine. Je quitte la maison pour un appartement qui appartient à mon père. Donc, mon père, il loue des appartements, en plus de la maison qu'il a, il loue des appartements, mais qu'il loue, donc ça, c'est une digression, mais qu'il loue, genre, au prix de la CAF. Depuis, genre, 30 ans qu'il a des appartements, il a les mêmes locataires, mais ils ont juste besoin d'aller... La CAF, et la CAF rembourse le prix des appartements.
Il fait exprès ?
Oui, je pense qu'ils ont un gros côté social. Mon père, en fait, il a passé sa vie à prêter de l'argent à des gens qui ne lui rendent pas l'argent. Il a fait des bons placements, mais qui ne fait pas fructifier. Jamais il s'est dit, vas-y, maintenant, il y a des Airbnb qui arrivent, je vais virer les gens, je vais louer, tu vois. Ils n'ont jamais eu ce côté entrepreneuriat, tu vois.
Tu te dis qu'ils ont été cons ou tu les admires pour ça ?
C'est un mélange des deux. C'est-à-dire qu'à la fois, je vois qu'ils perdent de l'argent, mais en même temps, mon père, il y a un côté tranquillité d'esprit. On ne parle pas d'argent, on ne le regarde jamais. On ne le regarde jamais. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que mon père est pied noir. Et quelque part, tu vois, le pied noir, il y a toujours ce qu'on appelle la peur du manque, tu vois, chez les pieds noirs. Il y a un truc, il y a un rapport à l'argent qui est lié à la perte et qui est lié à la mort. Tu vois, l'argent, en fait, regarder son argent, c'est regarder sa mort. C'est regarder son patrimoine. Et d'ailleurs, le fait que mon père ne regarde pas l'argent, ça m'a aussi permis de le voler pendant un bon moment. C'est-à-dire qu'il ne regardait pas ses comptes. Je pense que c'est aussi lié à une espèce d'hypocondrie financière. C'est-à-dire que la peur du manque, c'est la peur de la perte. C'est-à-dire, on a perdu l'Algérie, on a perdu l'endroit d'où on vient... on doit tout refaire, mais on veut pas regarder ça. C'est un truc qui me poursuit encore, ça. Par exemple, moi, en ce moment, je suis dans une période où je fais rentrer moins d'argent parce que j'ai deux activités et je veux pas voir ma perte d'argent. C'est-à-dire, je veux pas me brancher sur mon compte en banque pour regarder si je suis débiteur. Parce que si je suis débiteur, ça va me mettre très mal.
Ton bien-être peut dépendre du fait de voir où t'en es financièrement.
Complètement. Mais ça, c'est un truc aussi de quartier, tu vois. Tu disais, on parlait des mecs de quartier. Généralement, de ce qu'on fait, on n'en parle pas. C'est-à-dire, si tu vends du shit, si tu fais des cambriolages, peu importe ce que tu fais, tu n'en parleras jamais. Et les plus gros bandits... ne parleront jamais de ce qu'ils font. Tu vois. Ça, c'est une constante. Tu vois. Mais en fonction de leur état émotionnel, en fonction de comment ils se sentent, tu peux savoir s'ils ont fait des conneries ou pas, s'ils ont fait rentrer de l'argent ou pas. Et puis l'argent a disparu aussi, quelque part. C'est-à-dire que, moi, j'en reviens toujours à ça, c'est-à-dire que nous, dans les années 90, on faisait des arrachés de sacs, on faisait des cambriolages, mais aujourd'hui, l'argent, c'est numérisé. L'argent a disparu des poches. C'est-à-dire qu'un pickpocket, aujourd'hui, il aura beaucoup moins de chances de tomber sur une liasse que dans les années 90. Il y a un rapport charnel à l'argent qu'il y avait avant, qu'il n'y a plus aujourd'hui, qu'on peut retrouver plus dans les quartiers nord ou dans les trucs comme ça, mais le billet a disparu, le cash a disparu.
Oh.
Revenons à ton histoire à toi. Tu vas bosser à l'usine.
Ouais.
J'imagine que tu t'imaginais pas ouvrier toute ta vie. Et d'ailleurs, c'est pas ce qui est arrivé.
Non, mais on me propose des CDI. Par exemple, j'ai souvenir, je travaille chez Provence Chips, au Chips d'Allo. Je suis cuiseur-friteur. Ça s'impose, cuiseur-friteur. Et je bosse tellement bien qu'on me propose un CDI au Chips d'Allo. C'était le SMIC, tu vois. Le SMIC, mais je refuse. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. J'écris un peu dans la presse culturelle gratuite. Je fais des papiers, mais c'est sans être payé. Je commence à me dire, allez, vas-y, je vais devenir journaliste. Culturel, tu vois. Mais encore, là, je plane.
Là, tu vis dans l'appart de tes parents. Tu gagnes plus ou moins le SMIC.
Ouais.
Tu fais plus le truc illégal ?
Non, quasiment plus. Et j'ai ma fille. J'ai séparé de la mère. Mes parents assurent beaucoup à ce niveau-là. Mes parents prennent beaucoup le relais. Et puis, je rencontre ma femme, qui est sénégalaise.
Ta femme qui est encore ta femme aujourd'hui ?
Qui est ma femme aujourd'hui, qui est sénégalaise. Elle fait ses études en France. Elle vient de Dakar. Et voilà, et je la rencontre, et là je vis avec elle. Donc on se marie dans la tradition musulmane, et je me marie, je sais pas, vers 20, 25 ans, tu vois. Et qu'est-ce
communauté
que je...
des biens ?
Ouais, tout. Il n'y a pas de problème avec ça. Et en fait, à partir de là, ma femme gère l'argent pour moi. Je fais rentrer de l'argent parce que très vite, je deviens vidéaste. Je rentre au Nomad Café, qui est une structure associative. Et finalement, ça me lance. En fait, je faisais des teasers pour les groupes de musique qui venaient jouer au Nomad Café. Donc, je commence à toucher à la vidéo. Et là, je rentre dans le métier de la vidéo. En fait, on arrive au moment où la vidéo se démocratise. C'est-à-dire que avant, pour faire des vidéos, il fallait faire appel à des agences de com, trucs, si, machin, chose. Et puis tout d'un coup, les appareils photos qui commencent à faire une image cinéma, tu vois. Donc j'achète ça rapidement et je me lance dans l'activité vidéo. Et là, je travaille au départ pour des agences d'événementiel.
Et tes anciens copains, tu les vois plus tellement non plus à ce moment-là.
Et mes anciens copains, plus rien. Plus aucun... Enfin, un ou deux. Il y en a un qui est devenu fou, l'autre qui a fait sa vie, qui travaille comme caissier chez Auchan, ou qui est d'abord dealer de cocaïne, ensuite il devient caissier. L'autre, on l'a perdu de vue, il travaille dans la sécurité. Tout le monde se met à travailler. Tout le monde se met à bosser. Comme je dis dans le livre, les vrais problèmes sont arrivés en même temps que les lettres de la CAF. On doit payer nos factures. Et puis les potes, ils doivent se marier, tu vois. Ils sont quasiment tous musulmans. Et moi, pareil, un enfant très tôt et je me marie finalement très tôt aussi. Donc, je dois faire rentrer de l'argent.
Et c'est toujours pas toi qui compte ?
Non. En fait, je m'arrange toujours toute ma vie pour pas compter. En fait, l'argent ne compte pas. Et l'argent... Je le flambe. Même l'argent que je volais à mes parents, je le flambe. Je n'économise jamais. L'argent, il me brûle les mains. Même encore aujourd'hui. L'argent, je ne veux pas en entendre parler. C'est un truc dont je ne veux pas entendre parler. C'est-à-dire que j'en entends parler à partir du moment où ma carte bleue, elle est bloquée. Mais je ne vais pas en parler à mon banquier. Je vais en parler à ma femme. Je vais dire, oh, la carte bleue, elle est bloquée. Alors que j'ai fait rentrer tant, je ne comprends pas. Donc l'argent... Je m'en occupe pas et ma femme, elle gère ça. Elle a fait aussi des études de notariat. Elle a essayé de faire des études de notariat parce qu'elle est africaine et après, tu sais, les études de notariat, après, il faut trouver des stages et pour les trouver, c'est compliqué. Surtout quand tu es africaine, tu vois. Il faut avoir des amis ou des parents dans le notariat, donc elle a jamais pu être notaire. Mais elle a cette appétence-là, tu vois, ce rapport à l'argent... où on est en gestion de patrimoine. Ça ne lui fait pas peur, tu vois.
Mais en revanche, donc, tu fais comme toi, tu fais comme tes parents, tu ne te gardes pas.
C'est-à-dire que moi, je me rapproche beaucoup de mon père. Ma mère, elle vit chichement. C'est-à-dire que les enfants, on va chez Emmaüs, elle s'habille avec rien. Elle fait les courses, donc elle s'occupe de tout ce qu'on appelle l'économie familiale. Mon père, lui, par contre, il va chez Agnès B, il va acheter ses petites pâtisseries, mais en même temps, il est très généreux, c'est-à-dire que si tu lui demandes de l'argent, il te le donne, tu vois. Mais il veut pas s'en occuper. C'est-à-dire que tout ce qui est économie familiale, c'est ma mère qui gère ça.
Et tu as l'impression de reproduire ce schéma-là ?
Ouais, franchement, oui. Par exemple, j'ai une ceinture Hermès, tu vois, on va chez Hermès, quand on peut se faire plaisir, on se fait plaisir. J'ai aussi cet héritage de quartier, c'est-à-dire que cet héritage du panier, c'est-à-dire que on est prolo, on est clando, mais on est habillé comme des nababs, avec du Hugo Boss, du Prada, du Louboutin. C'est un truc. Donc moi, j'ai gardé aussi ce truc un peu de quartier, tu vois, même si maintenant je me suis un peu boboisé. J'ai plus l'air d'un bobo que d'un mec de quartier, mais j'ai quand même gardé ce truc avec la fringue.
Mais ce qui est fou, c'est qu'on va y arriver. Mais finalement, évidemment que les 3000 euros, l'appart de tes parents au panier, aujourd'hui, ils valent des centaines de milliers d'euros.
On est quatre quand même sur l'héritage. Après, ouais, il y a du patrimoine. Il y a du patrimoine, il y a une maison qui est peut-être à 1 million d'euros, tu vois, peut-être plus. Mais oui, il y a du patrimoine, c'est sûr, on y pense. On n'en parle jamais. Mais dernièrement, j'ai reçu un mail de mes parents avec la fiche de tout ce que mes sœurs ont obtenu de mes parents, de tout ce que mon frère a obtenu et de ce que moi j'ai obtenu, tu vois.
Ils ont fait les comptes de ce qu'ils avaient donné à chacun des enfants. Ah, c'est assez... Après, c'est toujours extrêmement bizarre, effectivement, de recevoir ce genre de truc. T'es là,
ouais, t'as pas envie, c'est bizarre. Moi, j'étais assez content parce que finalement, c'est moi qui ai gratté le moins pour l'instant. Bon, ça se joue à peu de choses. Hein. Je crois que je suis à 50 000. Après, ça monte jusqu'à 100 000. Tu vois,
50... Ils ont filé entre 50 et 100 000 balles à,
voilà,
chacun de leurs enfants.
C'est ça, exactement.
Ils ont compté quoi dans les 50 000 qu'ils t'ont filé à toi ?
Moi, les 50 000, ça a été pour acheter mon premier appartement.
Alors, revenons. Donc, tu fais vidéaste, caméraman, et en fait, tu t'orientes vers la vidéo, quoi. C'est ça,
voilà,
le truc.
Voilà, complètement.
Quoi.
Je fais des vidéos.
Tu fais des gâches.
Je fais des vidéos à la con pour des entreprises qui vont faire Carrefour, les meilleurs vendeurs de Carrefour qui vont à Antibes pour aller se la mettre pendant un week-end, et moi, je leur fais une vidéo. Je fais des vidéos dans l'événementiel. C'est vraiment des vidéos à la con, tu vois. Ils vont faire ce qu'on appelle les team building, tu vois. Donc, moi, je vais filmer les team building. Il y a un côté un peu Welbeck. Rapidement, en fait, dans la vidéo, ça se démocratise. Donc, tu es moins cher que les agences qui les plumaient. Mais rapidement, les trucs, c'est genre 450 balles la journée de vidéo, puis après au montage, 450 euros, et tu peux passer 5-6 jours sur des vidéos, et puis tu peux te faire très rapidement des 4000, 5000.
Ça va vite, ouais. Mais et à ce moment-là, c'est toujours pas toi qui gères la thune, c'est ta meuf.
Ma meuf, elle gère tout. Moi, je fais rentrer l'argent. Ma meuf, elle va jusqu'à créer ma société. Donc en fait... elle se rend compte que j'explose le plafond de l'auto-entrepreneuriat. Et donc, du coup, elle a conscience très rapidement qu'il faut que je monte une boîte.
Elle bosse ?
Elle bosse dans la compta. Elle a plein de qualités, mais ça rejoint un peu mes potes. C'est-à-dire qu'elle est dans ce déterminisme social. C'est-à-dire que pour elle, s'éclater dans le boulot, ça n'existe pas. Elle, le travail, c'est juste pour gagner de l'argent. Tu vois, donc elle passe d'une boîte à une autre, elle fait de la comptabilité, elle est hyper efficace. Et puis maintenant, elle travaille dans un syndic de copropriété où elle est surchargée de taf, où ça l'emmerde plus ou moins, mais elle continue à le faire, tu vois. Parce qu'elle se dit, l'argent, il y a un côté chez elle, l'argent, c'est pour aller vivre au bled quand j'aurai ma retraite. Tu vois, donc rapidement, ma meuf, c'est on achète un terrain au bled, on fait construire au bled, au Sénégal, donc au pays, et on va louer notre maison au Sénégal. Donc, il y a vraiment ce côté-là chez ma femme où finalement l'argent t'aide seulement à te rémunérer et à construire ta famille, mais pas forcément à te développer personnellement.
Il n'y a pas d'idée de plaisir, quoi.
Non, aucune. Aucune idée de plaisir, vraiment.
Est-ce que vous avez des différences sur la façon dont vous avez envie de le claquer, l'argent ?
Non. Alors par contre, on est assez d'accord là-dessus. Même pour les anniversaires, tu vois, les anniversaires, c'est des cadeaux à 1000 balles, tu vois, des fois. Même plus, des fois. Son dernier anniversaire, c'était des 40 ans. J'ai lui acheté une paire de church, alors qu'on n'est pas non plus hyper bien en ce moment financièrement, mais j'ai acheté une paire de church à 900 balles, tu vois. Et ça pouvait pas être moins que ça.
Ça veut dire quoi, ça pouvait pas être moins que ça ?
Ben, ça veut dire que la valeur du cadeau a quand même une valeur financière. C'est pas un truc de pognon, c'est un truc de qualité. C'est-à-dire que ma meuf, elle sait que si elle achète une paire de church, ça sert pas une paire à la con de Prada, tu vois. Donc, elle a conscience que si elle achète ça, ça peut durer dans le temps. Son grand truc en ce moment, c'est il faut que je m'achète un petit sac Hermès, là, les Kelly. Et en fait, elle a conscience que le Kelly, elle l'achète, mais elle se dit le Kelly peut être revendu plus cher que ce que je l'achète. Elle a toujours ce truc-là dans la tête. Chose que moi, je n'ai pas forcément.
Ta femme, c'est un peu ta secrétaire en même temps, du coup. Ta comptable. Ben non, mais c'est vrai.
Il y a un peu ça, mais pas totalement non plus.
Est-ce que c'est pas macho, finalement ?
Macho, je sais pas, parce que elle a le pouvoir aussi, en même temps. C'est pas du machisme, c'est-à-dire qu'elle, elle a le pouvoir. C'est-à-dire que je lui lègue tout, je lui fais entièrement confiance. C'est-à-dire que mon argent, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais sur le bouquin, par exemple, part en grande partie dans une construction d'une maison au Sénégal. Et moi, je suis pas sénégalais. Donc, est-ce que c'est machiste de faire ça ? Je sais pas. C'est confier la gestion de ton argent à quelqu'un d'autre, c'est aussi lui faire confiance. Ce n'est pas que du machisme.
Est-ce que tu sais combien tu as sur tes comptes aujourd'hui ?
Eh ben, franchement, je pense qu'en épargne, c'est pas énorme, tu vois. Genre, je sais pas, 30, 40 000 euros en épargne. On a un appartement qu'on a acheté à crédit à 250 000 euros. On a acheté une maison au Sénégal qui est en train de se finir. Qu'on a acheté. Au départ, on a acheté un terrain au Sénégal qui coûtait genre 7000 euros, quand vaut le triple maintenant. Ça augmente très vite, comme en France d'ailleurs.
Mais donc, tu deviens vidéaste ?
Ouais.
À coup de gâches et à coup de contrats qui, j'imagine, vont croissant en termes de rémunération. Et puis, il y a un jour où tu deviens écrivain.
Ouais. Les contrats vont pas croissant de dingue non plus. Hein. C'est la vidéo, ça s'est beaucoup transformé aussi. En fait, dans la vidéo, je veux pas vraiment devenir vidéaste au sens ouvrir une boîte de com, tu vois. J'ai eu l'occasion avec, par exemple, un pote à moi. Tout d'un coup, c'est on veut ouvrir une boîte de com. Mais moi, j'ai pas ce réflexe de dire je veux me laisser enfermer dans ouvrir une agence de com. Ça me fait chier. En fait, j'ai pas envie de ça. Et quelque part, il y a ce côté un peu héritage des intellos, tu vois. Je commence à écrire, je me dis, je sais écrire. En vidéo, je me dis, je sais faire de la vidéo, donc je peux aussi éventuellement le cinéma, tu vois. Même si je sais pas m'y prendre, je connais pas les réseaux, donc je m'y prends très mal, je sais pas comment faire. Mais je me dis, je peux être artiste. Alors que mes parents ne l'ont jamais été. Mais j'ai toujours vu des artistes autour de moi, donc j'ai le bagage culturel, mes parents m'amènent au miroir pour regarder, c'est le cinéma du panier où il y a toutes les rétrospectives de Pasolini, de trucs, donc j'ai vu tout ça, tu vois. Donc je suis gorgé à la fois de ça, je suis à la fois un mec de quartier parce que j'ai grandi avec des mecs de quartier, j'ai cette double culture à la fois presque algérienne et française aussi, tu vois, j'ai tout ça et je me dis je peux en faire quelque chose. Donc, je ne vais pas me laisser enfermer à faire une boîte de com qui va me bouffer et qui va m'amener jusqu'à ma retraite ou jusqu'à ma mort, tu vois. Je n'ai pas envie de devenir, même si je vais pouvoir gagner plus d'argent, je n'ai pas envie de devenir ça. Tu vois, ça me fait chier, en fait. Et je peux, et je le rate, ce train-là.
T'as ce côté bourgeois de « on peut rêver mieux ».
Ouais, j'ai le trapéziste, mais qui a quand même le filet en dessous, tu vois. Parce que le filet, c'est le patrimoine. Donc, tu as cette conscience-là, quand même, en toi. Quand j'ai sorti mon premier bouquin « 5 dans tes yeux », la toute première interview, le mec me dit, me branche sur le déterminisme social, il me dit « est-ce que tes potes, ils avaient conscience qu'ils pouvaient être écrivains, tu vois ?» Et donc, ça me revient un peu à la gueule aussi, tu vois. Et je me dis « non ». Non, ils peuvent pas, mais maintenant, j'en ai vraiment conscience de sa question, tu vois.
À force des interviews ou
À force du deuxième bouquin et à force de traîner dans le milieu littéraire. Je vois le milieu littéraire de l'intérieur et ce que je ne voyais pas à l'époque, tu vois. Je me disais, si tu as envie d'écrire un bouquin, tu écris un bouquin. En fait, écrire un bouquin, ça demande une certaine sécurité... peut-être consciente ou inconsciente, que plein de gens n'ont pas. Et c'est pour ça que la littérature française est en grande majorité bourgeoise. Il ne faut pas se leurrer. Il y a maintenant des petits phénomènes, des petits trucs, Édouard Louis, Djati Diallo, Fatima Das, il y a des choses qui sortent comme ça petit à petit, mais en grande majorité, c'est une littérature bourgeoise. Mais ça... Ça c'est juste parce que écrire, ça demande un temps hyper long sans forcément être sûr du résultat, à la fois médiatique mais aussi financier.
Tu gagnes combien avec tes vidéos ?
Rien, non, c'est pas rien, mais les vidéos, c'est un coup on t'appelle, tu gagnes une vidéo de 3000 euros, un coup on t'appelle, tu vas gagner 1200 euros, un coup on t'appelle, boum, tu fais un gros coup, tu gagnes 10 000 euros, tu fais rentrer...
T'es indépendant, quoi.
Ouais, je suis indépendant, je fais rentrer de l'argent comme ça, des fois il y a des gros coups, des fois des petits coups, je fais travailler des mecs aussi, donc...
Des fois t'as beaucoup de clients et hop, tu fais des...
Et des fois t'as plus rien, c'est vraiment très fluctuant, tu vois, après j'arrive quand même...
Après ta meuf, elle a un salaire fixe ?
Ma meuf, elle a un salaire fixe, mais quand même je fais rentrer suffisamment d'argent pour que je puisse avoir un salaire moi aussi et pour que la société puisse rentrer de l'argent.
Et donc tu te mets à écrire à ce moment-là ?
Et je me mets à écrire, ouais.
Et tu te dis que ça va te rapporter du pognon ou pas ? Ou t'y penses pas du tout ?
Au départ, j'y pense pas. Mais quand même, j'ai toujours ce truc de vouloir gagner de l'argent, tu vois. J'ai pas ce truc... Et encore une fois, ça vient de ce truc de quartier où il faut que je gagne de l'oseille, tu vois. On s'en bat pas les couilles, il faut gagner de l'argent. Moi, je veux gagner de l'argent. Je m'en cache pas. En tant qu'auteur, je veux gagner de l'argent. Je suis pas... par exemple, les gens qui me parlent des prix, qui me disent « Oh, les prix, on s'en fout. » Moi, les prix, je m'en fous pas. Je veux gagner de l'argent, je veux être sur les prix.
Les prix littéraires ?
Les prix littéraires, je veux gagner de l'argent.
S'il y a 10 000 balles à la clé, t'en as pas rien à foutre.
Je les prends, ben, c'est sûr, je veux gagner de l'argent.
Qu'est-ce qu'ils sont devenus, les copains du panier, alors ? T'avais 5 potes, c'est ça ?
J'avais 5 potes, ouais. Il y en a un qui est devenu fou, donc je sais pas où il est. Il y en a un qui bossait dans la sécurité, mais je sais pas où il est. Il y en a un qui est devenu influenceur dans le cannabis. Alors, je vois un peu ses photos passer sur Instagram. Il m'envoie un peu des messages de temps en temps. Et puis, il y en a un qui vit encore au-dessus de chez ses parents, qui fait pas grand-chose. Et puis, le dernier, il était aux dernières nouvelles chauffeur pour la RTM.
Chauffeur de bus.
De la ville de Marseille.
Tu les revois ?
Non.
Quand tu as sorti ton livre, tu as eu des messages ou ils ont été au courant ?
Alors... Je leur ai tous fait envoyer le bouquin. Il n'y en a aucun qui l'a lu. J'ai eu des petits coups de stress. Ouais, est-ce que tu as parlé de ma sœur dans le bouquin, de la relation qu'elle avait eue avec un tel, avec un tel. Finalement, rien d'autre. Et puis, j'ai eu un message de Ange, il n'y a pas longtemps, qui est un peu dans les réseaux hip-hop, qui est un peu le corse de la bande, qui m'a envoyé un message gentil sur Instagram en me disant « Merci d'avoir gravé notre histoire dans la grande histoire marseillaise. Et ça, je te remercierai toute ma vie pour ça. » Voilà.
Et voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velly et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Anna Borel. Le montage est assuré par Frédéric Fortuny, toujours sur une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, n'hésitez vraiment pas à nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires, par exemple sur Apple Podcasts. Ça a l'air de rien, mais ce n'est pas du tout anodin. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Et nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee. Parce que donner un peu de thune à thune, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Et enfin, si vous trouvez que votre rapport à l'argent est particulier, ou si vous avez traversé une histoire forte liée à l'argent, n'hésitez pas à nous contacter sur Insta, sur Facebook. On répond toujours. À très bientôt. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thune, vous savez qu'on a besoin de thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez thune, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien, il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant thune podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.